Quand l'histoire fait l'actu, Tour de France, la Bretagne au départ.
Bonjour, je m'appelle Philippe Joubin et dans notre série de podcasts grand format, nommée Quand l'histoire fait l'actu, je vous propose de revivre quelques grands rendez-vous de notre passé récent dont les conséquences influent toujours sur notre société, et ce en compagnie des experts de la rédaction d'Ouest France. Pour ce podcast, je suis en compagnie de Vincent Côté, rédacteur en chef délégué au sport de Ouest France.
L'été est là et le Tour de France est fidèle à son rendez-vous. C'est à Brest qu'a lieu cette année le grand départ. 122 coureurs prennent la route pour la première étape, Brest-Rennes, 246 km, tandis que l'on cherche les vainqueurs possibles. Magny, capable de tirer son épingle du jeu. Fausto Coppi, favori incontestable, mais qui devra compter avec Gemignani, deuxième l'an dernier et leader de l'équipe de France.
C'est de ce ton martial et triomphant, propre aux actualités françaises diffusées après-guerre dans les salles de cinéma, qu'est ainsi commenté le premier grand départ du Tour de France depuis Brest. Une petite révolution. Depuis 1903, date de la première édition de la Grande Boucle, ce fameux départ avait été donné systématiquement depuis Paris et la région parisienne, aux seules exceptions notables d'Évian-les-Bains en 1926, puis de Metz en 1951. Mais les édiles brestois avaient réussi à convaincre Jacques Godet, fondateur du journal L'Équipe en 1946, et qui avait relancé le Tour un an plus tard, de faire de leur ville la capitale éphémère du cyclisme 1952. C'est donc un vrai moment d'histoire que vivent les Brestois en ce 25 juin. Pourtant, le Tour et la Bretagne vivaient déjà un vrai roman d'amour. Dès 1903, il se rend à Nantes, terme de la cinquième étape, arrivant de Bordeaux. Loin de moi d'épiloguer ici sur le fait que Nantes soit ou non en Bretagne, cette arrivée, puis le tracé de la dernière étape à destination de Paris, matérialise néanmoins un passage dans le Grand Ouest. Deux ans plus tard, la Grande Boucle fait escale à Rennes, puis, en 1906, rallie Brest. Et Brest devient d'ailleurs, jusqu'en 1910, le point de départ d'une des plus longues étapes à destination de Caen, soit 415 km que les forçats de la route couvrent pour les leaders après quelques 16 heures d'efforts. Constatons aussi que les premiers tracés, et ce fut le cas jusqu'au milieu des années 50, font la part belle à une course circulaire le long des côtes et frontières françaises. Fort logiquement, la Bretagne devient ainsi une terre d'élection pour la plus prestigieuse épreuve cycliste. Ce qui tombe plutôt bien, car les champions venus de Bretagne et qui s'illustrent sur le Tour de France, entre autres, sont rapidement très nombreux. D'ailleurs, Vincent Côté, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef au sport de Ouest France. Est-ce la poule qui fit l'œuf ou l'œuf qui fit la poule? À savoir que cette fréquentation très précoce des routes bretonnes par le Tour aurait-elle généré toutes ces vocations?
Ça, Philippe, c'est le mystère de la création. Mais ce qui est évident, c'est que la Bretagne, l'ouest de la France en général, entretient une histoire passionnelle avec le cyclisme. Il faut savoir qu'en 1931, avait été créé le circuit de l'Ouest, l'ancêtre du Tour de l'Ouest qui rassemblait alors les meilleurs coureurs de l'Hexagone, mais aussi d'Europe. C'est le journal Ouest Éclair, l'ancêtre de Ouest France, qui organisait cet événement. Et comme pour le Tour de France créé par l'Auto, prédécesseur du journal L'Équipe, une course cycliste faisait l'événement dans le but de faire la promotion du titre et de vendre des journaux. Donc oui, le cyclisme breton, formaté par le Tour de l'Ouest, s'est vite reconnu dans le Tour de France et a porté de nombreux grands champions populaires dans l'immédiate après-guerre. À commencer par Jean Robic, vainqueur en 1947, puis Louison Bobet, qui va s'imposer dans les années 50. Sport dur par essence, le cyclisme correspond bien aux habitants de Bretagne, où le travail de la terre sur la mer a façonné des générations d'hommes et de femmes courageux. C'est une terre de légende aussi, à commencer par celle des forçats de la route, racontée par le journaliste Albert Londres lorsqu'il rencontra les frères Pélissier et témoigna de la difficulté de cette épreuve en 1924 à l'occasion de l'étape entre Cherbourg et Brest. Il y a un culte du champion cycliste sur ces terres de l'Ouest où la valeur travail reste enseignée.
Retour en 1952. Parmi les engagés, vous l'avez cité, il y a Jean Robic, qui, s'il est né dans les Ardennes, était un vrai Breton. Robic, vous l'avez dit aussi, Vincent, était victorieux en 1947. Et il compte évidemment parmi les favoris de cette édition brestoise. Et Ouest France, en une de son édition du 24 juin 1952, n'hésite pas à titrer « Robic, obstacle numéro 1 pour les Italiens ». Une équipe transalpine, il est vrai, ultra favorite. Robic roule, lui, au sein de l'équipe de France. Depuis 1930, en effet, les équipes qui s'affrontent alors sont nationales et non plus des équipes de marque. Il en sera ainsi jusqu'en 1962. D'ailleurs, c'est cette mise à l'écart des partenaires financiers qui poussa le Tour à créer, en 1930 aussi, la fameuse caravane publicitaire, de manière à permettre aux sponsors de s'afficher, et ce, sans peser sur la course en elle-même. Mais aussi, car il faut bien financer la compétition et en tirer de solides profits, a demandé aux villes étapes des contributions financières toujours plus importantes. En 1952, Brest n'échappe évidemment pas à payer cette redevance en contrepartie de la publicité et de l'activité économique générée pour les hôtels et restaurants, entre autres. La cité du Ponant est très heureuse de ce grand départ. Pendant une semaine, la ville est prise d'assaut. Il y fait un temps radieux. Et dans Ouest France, à la veille de ce départ, on peut encore y lire « Le départ du Tour va s'effectuer dans une véritable apothéose et tous les ragots répandus à propos de la ville et de son crachin, toute la littérature pluvieuse qui a contribué à bâtir une légende. Bref, tout cet édifice va se trouver sérieusement ébranlé. » Et de conclure l'article par ces fameux vers « Souviens-toi, Barbara ». Jamais depuis la guerre, une telle fréquentation fut relevée dans les rues de la ville. Une ville en pleine reconstruction et qui a besoin de démontrer ses atouts. Maurice Picmal, grande figure locale, délégué départemental du ministère de la Reconstruction, fut une des chevilles ouvrières de ce départ. Car vu de Brest, cet envol est autant politique qu'économique et sans doute plus que sportif. Inspiré, Picmal, le bâtisseur, écrira en filant la métaphore cycliste « Les coups de pompe furent inévitables, mais nous sommes en mesure, sinon de casser la baraque, du moins les baraques. » Avec ce « les baraques », l'ingénieur fait évidemment référence à cet habitat précaire et provisoire constitué de milliers de baraques bâties à la hâte pour accueillir la population en attendant que la ville ravagée par la guerre soit reconstruite. Vincent, retour avec vous. Pour les territoires, le Tour a toujours été indéfectiblement lié à la politique et à l'économie.
Oui, Philippe, vous avez tout à fait raison. Et à ce titre, le début des années 50 marque une vraie évolution. Le Tour change de dimension dans l'immédiate après-guerre et devient un événement ancré, attendu, valorisé au-delà du support qu'il organise. La population l'attend et ses champions sont reconnus. Dès lors, les villes, les politiques comprennent l'enjeu d'obtenir une étape, un départ, une arrivée, afin de mettre en lumière leur dynamisme et de créer l'événement sur le pas de la porte des habitants. Il y a Brest en 52, vous venez de le dire, Philippe, mais près de nous, il y a aussi Le Havre en 1955, Nantes en 1957, Rouen en 1961. La Société du Tour de France, organisatrice qui prendra le relais du Parisien Libéré et du journal L'Équipe, a compris que son développement passe par la diversité des parcours et l'accueil de nouvelles villes.
Alors pour Brest, retour à nouveau en cette année 1952, Vincent, c'est une véritable réussite. L'animation générée par le Tour devient rapidement effarante. Et le jour du départ, ce sont des cohortes de voitures et autocars qui convergent vers la ville. Les trains venus du Finistère et du Morbihan sont bondés. 100 000 Brestois sont dans les rues, s'amassant derrière les fascines en bois, rejoints par des dizaines d'autres passionnés. Plus de 100 000 autres prennent place ainsi de bon matin sur la route entre Brest et Landerneau. Bombardes et biniou, grosses caisses et tambours des cercles celtiques et bagades du département s'en donnent à cœur joie. Se joignent bien vite les cuivres des musiques militaires et la clique de l'école des mousses qui entonne « au champ ». Administrations, écoles et commerces sont fermés. Les marins ont quartier libre. Place des fusillés, autorités et invités prennent place dès 7h30. À 8h30, dans la furia des klaxons et des haut-parleurs, la caravane publicitaire s'élance. Puis elle est suivie par les équipes nationales des concurrents, paradant une à une en une festive cérémonie d'ouverture. Applaudissements et vivats couvrent la sonnerie du garde-à-vous qui ponctue chaque présentation. Suisses, Belges, Italiens, Français, tout d'abord, avant les équipes régionales de Paris, du Nord-Est, puis toutes les autres. Bien évidemment, les champions bretons, Robic, Maléjac, Le Guilly et consorts déchaînent les bravos. Puis le club de la Colombe brestoise lâche 1000 pigeons voyageurs porteurs de messages à destination d'autres grandes villes. les froufroutements de leurs ailes, rejoints par le moteur pétaradant d'un avion publicitaire, couvrent un temps les applaudissements. Les coureurs prennent place. À 9h35, le maire, Alfred Chupin, les libère en abaissant un drapeau rouge avant de se ruer dans la voiture du directeur de course, Jacques Godet. S'ensuit une parade symbolique dans les rues jusqu'à l'entrée de la route de Landerneau, où à 10h précises, Godet lance le signal du vrai départ. Et pendant que le peloton prend la direction de Rennes, les spectateurs sont invités en centre-ville à assister à une grande réunion de groupes folkloriques venus de tout le Finistère.
Et voici la première échappée sérieuse de l'étape. Les Belges Vanzenbergen et Blum sont en tête. Ils ne seront pas rejoints et Vanzenbergen, gagnant l'étape, endosse le maillot jaune.
Pour l'histoire, ce 39e Tour de France voit la victoire du grand Fausto Coppi, alors que Jean Robic, premier français, se classe 5e. 12 ans plus tard, le grand départ du Tour de France retrouve la Bretagne, mais à Rennes cette fois. Et ce sera la seule fois dans l'histoire de l'épreuve. Pour les amateurs, le Tour de France 64 reste comme l'une des plus grandes éditions de l'histoire. Vincent Côté, on s'en souvient, l'impitoyable duel entre Anquetil et Poulidor coupera alors littéralement la France en deux.
Oui, c'est effectivement un des moments mythiques de l'histoire du Tour de France parce qu'il cristallise une fracture, une séparation du public entre deux camps. Il y a les pro-Anquetil et les pro-Poulidor. On disait alors les Anquetilistes et les Poulidoriens. Oui. C'était le blond contre le brun, c'était la droite contre la gauche, c'était l'aristo contre le populo. Tout a été dit, écrit, fantasmé, exagéré aussi. Mais le duel entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor, au coude à coude sur les pentes sèches du Puy-de-Dôme, cristallise cet antagonisme. Cette année-là, le Normand arrogant vise un 5e succès dans le Tour de France. Il va l'obtenir et fait même le doublé après s'être imposé quelques semaines plus tôt sur le Tour d'Italie. Jusqu'alors, seul Fausto Coppi avait réussi cet exploit. Poulidor est plus fort qu'Anquetil en montagne, mais sur ce volcan d'Auvergne, proche de son Limousin natal, il ne porte pas suffisamment l'estocade. Anquetil parachève son succès dans le contre-la-montre final entre Versailles et le Parc des Princes. Son domaine de prédilection, c'est l'effort solitaire. Il est d'ailleurs recordman de l'heure. Poulidor ne gagnera jamais le Tour de France. Anquetil en est toujours le recordman de victoire, avec 5 succès, comme après lui, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain. Poulidor n'a jamais porté le maillot jaune, mais est monté 8 fois sur le podium du Tour de France, dont 3 fois deuxième. C'est l'éternel second, le loser magnifique, on dirait aujourd'hui, celui dont on est forcément proche à cause de ses malheurs. Ceci dit, Philippe, il ne faut pas être réducteur. Raymond Poulidor est un immense champion, vainqueur cette année-là, en 1964, du Tour d'Espagne, mais aussi de Milan-San Remo, de la Flèche Wallonne, de nombreuses étapes du Tour. Son palmarès est éloquent, tout aussi éloquent que celui de Jacques Anquetil. Mais il ne sera jamais monté sur la plus haute marche du Tour de France et n'aura jamais porté le maillot jaune. Au crépuscule de leur carrière, ces deux hommes que tout avait poussé à opposer avaient noué une solide amitié, même s'ils étaient différents. L'un proche de la terre, l'autre véritable oiseau de nuit, capable de tous les excès. Enfin, avant d'être emporté par un cancer en 1987, affaibli sur son lit de la clinique Saint-Hilaire à Rouen, Anquetil eut ces mots à l'attention de Poulidor, venu à son chevet. « Je crois, Raymond, que tu vas encore terminer second sur ce coup-là. »
Merci beaucoup, Vincent. Mais avant qu'Anquetil et Poulidor se battent comme des chiffonniers, on va revenir à Rennes en 1964, à l'occasion de ce grand départ. Ouest France organise dans ses locaux une exposition consacrée à l'histoire de l'épreuve, et elle connaît un vrai grand succès. Là encore, la municipalité ne lésine pas sur les festivités. Le 20 juin au soir, se déroule à la salle Omnisport le spectacle officiel du Tour de France. À l'ouverture faite par la musique municipale, se succèdent la présentation des équipes, puis des intermèdes musicaux avec Bob Sinclair, chanteur de charme, le champion d'accordéon André Broccoletti ou encore John William qui viendra clore la soirée. Rennes réservera un accueil magnifique au Tour, accueil qui reste dans les annales de par sa qualité. Le lundi 22 juin, c'est le même cérémonial qu'à Brest, 12 ans auparavant. À 10h40, les 132 coureurs partent du Champ de Mars, aménagés spécialement, et ce devant une foule chaleureuse, bien qu'assez calme, car impressionnée. Puis le présentateur des actualités commente la suite.
Défilé dans les rues, et c'est le départ effectif à Cesson, aux portes de Rennes. À 11h10, ils sont partis. Aujourd'hui, première étape, Rennes-Lisieux, 215 km par le chemin des écoliers, c'est-à-dire à travers l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, l'Orne et le Calvados. L'arrivée à Lisieux est prévue pour 16h49. Bonne route et bien sûr, que le meilleur gagne.
Devant eux, 22 étapes pour 4500 km de course, soit comme le notaient les commentateurs, la distance couverte la veille par les vainqueurs des 24 heures du Mans. Trois fois encore, le grand départ du Tour fut donné de Bretagne. Il y eut Brest en 1974, de nouveau pour un prologue. Et malgré les flonflons, là, c'est un flop. Il s'y joue une ouverture devenue traditionnelle sous forme de contre-la-montre le 27 juin, mais de 7 km seulement, puis une étape qui se rend à Roscoff pour que la caravane embarque à destination de l'Angleterre. À bord du ferry, c'est la bamboche. 6 heures de traversée vers Plymouth, où la gastronomie bretonne est présentée aux passagers, arrosée de vins et spiritueux de haute qualité. Les coureurs, eux, y vont en avion, pour la première incursion du Tour en Grande-Bretagne. Eddy Merckx s'empare du maillot jaune dès le prologue, et il le portera encore à Paris le jour de l'arrivée. Mais le Tour ne fascine plus. Ouest France est très acide dans ses commentaires. « Le ressort est cassé, la magie du Tour patine », écrit ainsi notre confrère Bernard Boudic. « Les foules ne se déplacent plus », continue-t-il en décrivant le départ. « On attendait 40 000 personnes, on est loin du compte ». Dans un autre article intitulé « Le Tour malade du négoce », Jean-Louis Carrère écrit « Le Tour est malade d'un négoce pour qui le sport n'est plus que prétexte et faire valoir. L'exploit ne sert qu'à soutenir l'attention. » Et de finir ce réquisitoire par « Les gros bras finiront dans la peau de PDG Nanti et la roue continuera de tourner au jeu des inégalités. » Vincent Côté, expliquez-nous, Ouest France est très très amer et très acide par rapport au Tour. Pourquoi en ce milieu des années 70, la magie du Tour n'opère plus en Bretagne ?
Oui, c'est une excellente question, Philippe. C'est effectivement un tournant, ce milieu des années 70, parce que la France change, la société française s'intéresse à d'autres pratiques, le tourisme de masse apparaît, les voyages et d'autres activités sportives aussi ont pris le pas sur le cyclisme qui très longtemps a occupé le devant de la scène avec comme la boxe et le football. Sportivement, nous sommes dans les années Merckx. Il faut savoir que le champion belge a tué tout suspense de la fin des années 60 au milieu des années 70. On l'appelle pas par hasard le cannibale. La relève française tarde à venir. Anquetil est parti, Poulidor a vieilli et Bernard Thévenet va bien gagner deux Tours de France en 1975 puis 1977, mais le Tour recherche un nouveau souffle. Il faudra attendre Bernard Hinault, on ne va pas attendre longtemps, car dès 1978, le champion breton s'impose à sa première participation. Il a alors 23 ans. Il vient de s'adjuger le Tour d'Espagne et porte le maillot de champion de France et la France va découvrir un blaireau à la force de caractère extraordinaire.
Merci beaucoup Vincent. Dans tout mariage, il y a des hauts et des bas. Et après le flop de 74, l'union entre la Bretagne et le Tour, vous l'avez dit, va reprendre de plus belle en termes de grands départs. Il y a eu Hinault, il y aura de nouveau très beaux grands départs. En 1985, après Brest et Rennes, il est donné à Plumelec, un haut lieu du cyclisme breton, avec son célèbre Grand Prix de Plumelec, aujourd'hui baptisé Grand Prix du Morbihan. Une vraie fête du vélo que le prologue disputait cette année-là et qui voit la victoire de Bernard Hinault, nous venons d'en parler. En règle générale, un prologue sert à distribuer les maillots. C'est plat comme la main. Cette fois, il y a la célèbre côte de Cadoudal à grimper. À tel point qu'un coureur, De Wolf, l'un des favoris, est même éliminé d'entrée pour arriver hors délai. Et cette étape crée des écarts. Voici comment Patrick Chêne la relata sur Antenne 2.
Bernard Hinault, le Bernard Hinault des très grands jours, survolté, Hinault à domicile devant près de 100 000 supporters. Des supporters à peine plus disciplinés que ceux du Giro, mais c'était la fête après tout. La fête des retrouvailles, car ce succès-là n'a pas tout à fait la même saveur que celui de l'an passé dans le même prologue. Cette épreuve-là, c'était un vrai contre-la-montre, un vrai test. Oui, ce jaune-là est bien plus cher que les autres, ce jaune qui lui va très bien à Bernard Hinault.
Trois semaines après, ce même Hinault sera sacré sur les Champs-Élysées pour sa cinquième et dernière victoire sur le Tour. Rarement la Bretagne aura été autant à l'honneur que lors de cette 72e édition. 1995, le Tour prend cette fois son envol depuis Saint-Brieuc. Cette année-là saluera un nouveau quintuple vainqueur, Miguel Indurain. 21 équipes de 9 coureurs sont présentes dans les Côtes d'Armor. Le prologue, disputé en soirée de manière à contenter les chaînes de télévision, se révèle décevant. Il pleut en ce 1er juillet 1985 et nombreux sont les coureurs qui préfèrent soulager plutôt que de prendre des risques. Seul Chris Boardman, qui mise beaucoup sur ce contre-la-montre, tente le diable. Résultat, il chute, se fracture un poignet et une cheville, puis abandonne. Du coup, la victoire d'étape revient à Jackie Durand, qui était parti sous le soleil. Pendant 3 jours, le Tour reste en Côte d'Armor, Saint-Brieuc, Dinan, Lannion, Perros-Guirec. Il s'agit là ni plus ni moins que de mettre en avant les atouts touristiques du département, mais aussi son agriculture, la première de France alors, et son implication dans les télécommunications. Le Conseil Général débourse 10 millions de francs, soit 1,5 million d'euros, et pour l'époque, c'est une somme colossale. D'ailleurs, dans une vidéo de ce même Conseil Général, aujourd'hui Conseil Départemental, Bernard Hinault, l'enfant du pays, ne boude pas son plaisir.
On est dans une région où les gens adorent le vélo, et les gens adorent faire la fête. Et on le voit tout au long des 3 journées qu'on va vivre ici. Vous avez des animations partout, les magasins sont décorés, il y a eu des fêtes pour les enfants, les industriels se sont mêlés à tout ça.
Et oui, tout le monde s'est impliqué.
Vraiment,
en fait,
tout le monde avait envie que ce soit une belle réussite. Et en plus, on a le soleil avec nous, donc c'est fantastique.
La présentation des équipes se fait au port du Légué, sur fond de vieux gréement et sous un chaud soleil. La fête est partout à Saint-Brieuc, où les chants de marins sont permanents. De belles et chaudes soirées d'été, où le public est venu nombreux, autant pour le tour que pour le plaisir d'un grand moment de partage. Les Côtes d'Armor vivent un grand moment. En 2008, enfin, marque avant cette année 2021 la dernière fois où le Tour prend son envol de Bretagne. C'est à Brest pour la 3e fois. La cérémonie de présentation des équipes a des saveurs de fête populaire, écrit joliment Christelle Martel dans Ouest France, celle où l'on vient en famille et entre amis. Le cyclisme, qui est quand même le cœur de l'événement, devient finalement assez accessoire. Le bagad de Plougastel et les musiciens de la compagnie Générique Vapeur accompagnent cette journée. Michel Drucker anime une énorme émission télévision depuis le port du Moulin Blanc, le Tour en fête, où il rend hommage à tous les héros bretons du cyclisme, mais aussi au navigateur Éric Tabarly, 10 ans après sa disparition. Et Céline Renaud, qui donne le départ le 5 juillet 2008, pour une étape en ligne et non un prologue. La chanteuse est alors âgée de 80 ans et sa première apparition sur la Grande Boucle remonte à 1949. Elle chantait alors « Ma cabane au Canada » et vendait elle-même dans la caravane ses 45 tours. Côté sportif, les cyclistes bretons sont particulièrement bien représentés. Ils sont en effet 4 au sein de l'équipe de la Française des Jeux. D'ailleurs, Vincent Côté, je profite que vous soyez là, vous n'avez pas hésité alors à vous demander vous-même dans les colonnes de Ouest France, c'est la Française des Jeux ou la Bretonne des Jeux? Vous avez vécu ce grand départ 2008, vous en retenez quoi?
Ah, c'était une grande fête populaire à Brest, hein, vous l'avez rappelé, Philippe, avec une superbe atmosphère. Il y avait effectivement 4 Bretons au sein de l'équipe dirigée par Marc Madiot. On les salue, Benoît Vaugrenard, Yoël Le Boulanger, Lilian Gégou et Arnaud Gérard. Mais ce que je retiens, c'est que pour la première fois dans l'histoire du Tour, le premier jour n'était pas consacré à un prologue, mais à une étape en ligne. Le peloton s'est lancé de Brest et allait rejoindre Plumelec, toujours sa fameuse côte de Cadoudal, dans laquelle Alejandro Valverde allait mater le Cobra Ricardo Rico. C'était un duel de grimpeurs, de puncheurs, et c'est l'Espagnol qui allait endosser le premier maillot jaune. Après 2 victoires d'étape dans les Pyrénées, le sulfureux grimpeur italien sera exclu du Tour de France après un contrôle positif à l'EPO, comme l'ensemble de son équipe Saunier-Duval, les chaudières Saunier-Duval, comme on les appelait sur ce Tour de France. 2008, c'est un Tour de France qui est marqué par les affaires de dopage. Il y a des performances stupéfiantes, notamment au sein de l'équipe Gerolsteiner, et plusieurs coureurs seront déclassés quelques semaines plus tard. Nous sommes dans la première décennie du XXIe siècle, et on peut dire que ce sont les années de plomb, à l'image de la farce Lance Armstrong.
C'est à 12h10 exactement, le samedi 5 juillet 2008, que les 180 coureurs engagés ont pris la direction de Plumelec, le terme de cette première étape, vous l'avez rappelé. Ce 95e tour de plomb, vous l'avez dit, étant remporté, lui, par un autre Espagnol, Carlos Sastre. En cette année 2021, donc, Brest a pour la quatrième fois l'honneur d'être la ville départ de la Grande Boucle. Initialement, ce grand départ devait être donné de Copenhague, mais Covid oblige, le Danemark a décliné et le Tour reste en France. Le 1er novembre, Christian Prudhomme, l'actuel patron du Tour, présentait ainsi le début du parcours.
Cap sur 2021, nous serons au tout début de l'été, mercredi 23 juin, les coureurs s'installeront à la pointe de la Bretagne. Le lendemain, jeudi 24 juin, présentation des équipes et samedi 26 juin, top départ. Septième grand départ de Bretagne, quatrième grand départ de Brest, hors Paris, c'est un record. L'entame du Tour bénéficiera d'un paysage de cartes postales dans le peloton. Pourtant, la première journée de course s'annonce sans répit avec de nombreux changements de direction et d'incessantes relances. Nous traverserons Locronan, l'un des plus beaux villages de France. Nous descendrons jusqu'à Quimper, capitale de la Cornouaille, avant de remonter vers le nord par les zones ventées des Monts d'Arrée, où les coureurs ne trouveront aucun abri et où le peloton pourrait se disloquer. Le final est dessiné pour les puncheurs par la côte de la Fosse aux Loups qui mène directement à l'arrivée. Elle est très raide au pied. C'est en fait une rue de Landerneau, ville étape inédite dans le grand livre du Tour. La première étape est tracée intégralement dans le département du Finistère.
Ce que Christian Prudhomme ne précise pas, c'est que la ville de Brest et la métropole ont dû acquitter une redevance modique de 840 000 euros. Et il ne s'agit là que du financement versé à ASO, la société organisatrice. Cette somme ne comprend pas tous les à-côtés que les collectivités territoriales, régions, départements et autres communes ou intercommunalités devront régler. Vincent Côté, c'est tout de même beaucoup d'argent et on ne parle là que des montants versés par les villes départ, car les villes étapes paient elles aussi. De plus, le Tour n'a plus forcément une très belle image actuellement. C'est bizarre, une polémique a enflammé Rennes récemment, certains élus ne voulant plus y voir la Grande Boucle. Comment peut-on expliquer ça ?
Alors vous l'avez rappelé Philippe, il y a effectivement le poids des affaires, l'émergence aussi de nouvelles forces politiques dans la société française et les dernières élections municipales ont apporté à ce titre un nouveau courant. Néanmoins, c'est un choix qu'il faut assumer pour les élus. Quand on sait que les retombées économiques et touristiques sont énormes, accueillir le Tour de France fait vivre beaucoup de gens. Alors, quelles raisons ont poussé la municipalité rennaise a refusé cette opportunité? C'est à la fois cette mauvaise image liée à un dopage endémique, peut-être, mais cela n'est pas propre au cyclisme. C'est la pollution de nombreux véhicules présents, ce sont les MIS. La poussée écologiste dans le pays modifie la vision de certains élus. Pour autant, l'épreuve demeure populaire, assainie à bien des niveaux. ASO, l'organisateur, a réduit la flotte de véhicules de sa caravane, avec davantage de moteurs hybrides, avec moins de goodies distribués au public. La remise des prix sur les podiums est désormais assurée par des ambassadeurs où la parité est respectée. Le Tour de France fait sa mue, vit avec son temps et reste courtisé par une immense majorité de régions et grandes métropoles. C'est une preuve d'attractivité et de lien avec son public.
Merci beaucoup Vincent, mais il semble, vous l'avez dit, que l'investissement le vaille tout de même. Selon les statistiques officielles, le Tour est regardé par plus de 3,5 milliards de téléspectateurs dans 190 pays différents. Mais on fait souvent dire un peu ce que l'on veut à ces chiffres-là, ils sont toujours déraisonnables. D'autres études estiment qu'un euro investi dans le Tour en rapporterait entre 3 et 8. Alors quand on aime, on ne compte pas. Et la Bretagne aime le Tour, passionnément. Comme l'écrivit si joliment Antoine Blondin, le plus inspiré des chantres de la Grande Boucle, le Tour, c'est la fête et les jambes.
Quand l'histoire fait l'actu, Tour de France, la Bretagne au départ. Un podcast de Philippe Joubin, avec la collaboration de Vincent Côté et du service documentation de Ouest France, en partenariat avec l'INA. Réalisation et montage, Constance Cabouret, Maëlys Hennetier et Ronan Coquelin.